Le journal Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, une question d'heure sans doute en Syrie où les États-Unis s'apprêtent à frapper le régime, peut-être avec l'aide de l'armée française. Option militaire d'un côté, pression diplomatique de l'autre. Nous irons à New York où le Conseil de sécurité a encore une fois affiché toutes ses divisions cette nuit. Quand Nanterre rejoue mai 68, descente de CRS hier dans la fac où est né le mouvement étudiant il y a 50 ans, c'est le président de l'université qui a demandé le déblocage des lieux. Jour de trêve, en revanche, à la SNCF, le trafic revient progressivement à la normale. Les grévistes peuvent compter sur des caisses de grève qui font le plein, 600 000 euros pour la plus grosse. Emmanuel Macron a-t-il relancé la bataille de la laïcité? Un extrait de son discours hier devant les évêques provoque une levée de boucliers chez les plus laïcs. Le président a estimé qu'il faut, je cite, « réparer le lien abîmé entre l'Église et l'État ». Réaction dans ce journal. Et dans 20 minutes, Nicolas, avec votre invité.
Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, invité du grand entretien de la matinale jusqu'à 8h40. Amis auditeurs, appelez-nous dès maintenant au 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, les Français de plus en plus nombreux à saisir la CNIL pour faire respecter leur vie privée sur Internet. C'est une indiscrétion France Inter. Les candidats à la présidence de Radio France qui passe l'oral à partir d'aujourd'hui. Et puis à la fin de ce journal, un coup de cœur musical pour lancer la journée du bon pied. Mais d'abord, c'est dans une école que nous partons ce matin. Vous vous souvenez sans doute qu'en fin de semaine dernière, le gouvernement a lancé un grand plan contre l'autisme qui vise notamment à mieux intégrer les enfants comme les adultes pour que leur vie soit la plus normale possible. Mais entre les mots et la réalité, il y a parfois un gouffre. Ainsi, à Brive, des parents d'élèves menacent de retirer leurs enfants d'une école en raison de la présence d'une élève atteinte d'autisme sévère. Elle est en classe de CE1, elle fait souvent de très grosses colères. Et pour les parents, sa présence dans ces conditions est devenue insupportable. Ils envisagent donc de ne plus mettre leurs enfants à l'école dès la rentrée des vacances de printemps. Nicolas Blanza.
C'est la menace que font planer plusieurs parents des 21 autres élèves si rien ne change d'ici là, car cette classe de CE1 vit au rythme des crises de la jeune fille, explique l'un des enfants.
Elle déchire les livres, nos cahiers, elle balance tout, les trousses et tout ça. Elle pousse la maîtresse pour attraper les lunettes et les casser. Des fois, elle nous tire des cheveux. Elle nous met des claques.
Dur, dur d'apprendre.
On sait plus où on en est, les maîtresses viennent et tout ça, ça s'arrête et c'est un peu dur, même très dur.
Situation signalée plusieurs fois à l'éducation nationale, à la suite aussi d'interventions des pompiers et de la police. En vain, pour l'heure, déplore cette maman qui vient d'écrire jusqu'au ministre de l'Éducation.
On n'est pas contre la scolarisation d'enfants atteints de handicap. Ce qu'il y a, c'est que là, c'est pas adapté. Pour une enfant, il y a 21 autres élèves qui sont pénalisés pour pouvoir accueillir cet enfant.
Une auxiliaire de vie scolaire est affectée à 100% à l'élève autiste pendant les heures de classe. Une enseignante dédiée vient aussi en plus de l'enseignant principal. L'inspecteur d'académie de la Corrèze, Daniel Passa, est saisi de ce dossier.
Tout est fait, que ce soit pour tel élève ou pour tel autre, pour que tout puisse se faire dans la meilleure situation. Et nous continuerons à prendre des décisions qui vont dans le sens d'améliorer son intégration.
Car il en va là de la bonne scolarisation des 21 élèves, plus une pas comme les autres, de cette classe de CE1. À Brive, Nicolas Blanza, France Bleu Limousin pour France Inter.
Il est 8h03, des pressions diplomatiques mais toujours pas de frappe sur la Syrie.
Trois jours après la probable attaque chimique menée par le régime de Bachar el-Assad, Donald Trump et Emmanuel Macron se sont à nouveau parlé au téléphone hier soir pour convenir ensemble d'une réaction ferme. Décision d'ici ce soir ou très bientôt d'après la Maison Blanche. Mais en attendant ces frappes qui semblent de plus en plus plausibles, la partie se joue aussi à l'ONU où les Américains réclament une commission d'enquête sur ce bombardement. Hier soir, une réunion du Conseil de sécurité y était consacrée dans une ambiance tendue entre pro et anti-Assad. À New York, Marco Voltaire.
Trois heures de réunion et des discours fleuves pour des échanges avant tout violents et à charge. Voilà ce que l'on peut retenir de cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité. La représentante américaine Nikki Haley a accusé la Russie d'avoir du sang d'enfants syriens sur les mains, d'avoir été complice de l'attaque chimique à Douma.
Le moment est venu où le monde doit voir que justice est rendue. L'histoire se souviendra de ce jour comme de celui où le Conseil s'est acquitté de son devoir ou au contraire comme le jour où il a démontré son échec total. Quoi qu'il en soit, les États-Unis vont réagir.
Hier soir, aucun texte n'a pu être voté à l'ONU. Washington, Paris et Londres voudraient une enquête et un mécanisme qui permet de sanctionner les responsables. Pour la France, il n'y a pas de doute, c'est le régime syrien qui est l'auteur de l'offensive de ce week-end.
Seules les forces armées syriennes et leurs services ont le savoir-faire nécessaire pour développer des substances toxiques aussi sophistiquées et avec ce niveau de létalité. Et seules les forces armées syriennes et leurs services ont un intérêt militaire à leur utilisation.
François Delattre a lui aussi insisté sur le rôle de la Russie, mais pour Moscou, les images de Douma sont une mise en scène, un prétexte pour aller frapper la Syrie. À New York, Marc Voltaire pour France Inter.
Cette erreur est la mienne, je m'en excuse devant vous, voilà les mots et le nouveau mea culpa que Mark Zuckerberg prononcera tout à l'heure devant le Congrès américain, où il est convoqué après le siphonnage des données de 87 millions d'utilisateurs de Facebook. Zuckerberg qui joue gros, l'action de son entreprise a perdu 15% ces derniers jours. D'après le New York Times, il a embauché chez des consultants pour lui donner des cours d'humilité et de séduction avant ce grand oral. Et autre signe qui ne trompe pas, en arrivant à Washington hier au bras de son épouse, le fondateur de Facebook avait troqué son bon vieux t-shirt pour un costume cravate. Et en France, comment les internautes surveillent-ils l'usage de leurs données privées? C'est une information France Inter. Le nombre de plaintes enregistrées par la CNIL, la Commission informatique et liberté, a encore augmenté l'an dernier pour franchir, Thibault Lefèvre, la barre des 8000 plaintes.
Il y a quelques mois, Julie tape son prénom et son nom sur un moteur de recherche. Plusieurs résultats renvoient vers des photos d'elle, des clichés de police pris par les autorités américaines et qui causent préjudice à la jeune fille, d'autant plus qu'elle avait été arrêtée pour une affaire de visa rapidement résolue. Julie demande le déréférencement des contenus, refus du moteur de recherche qui finit par céder après l'intervention de la CNIL. Comme Julie, près de 350 internautes ont fait valoir leur droit à l'oubli. Ils sont près de 2500 à avoir demandé la suppression de contenus diffusés sur Internet. Un autre quart des plaintes concerne le commerce et notamment le commerce en ligne, de la prospection qui tourne au harcèlement ou des données bancaires conservées sans raison. Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à l'utilisation de leurs données personnelles. Une prise de conscience qui explique le record de l'année dernière. 8% de plaintes en plus par rapport à 2016, près de 45% d'augmentation en 3 ans.
Les chiffres à retrouver en détail et en infographie sur franceinter.fr.
8h07, des CRS qui débarquent à la fac de Nanterre.
C'était peut-être leur façon à eux de commémorer mai 68. Les CRS sont intervenus à deux reprises hier pour déloger des étudiants grévistes sur le toit de la fac, puis dans un bâtiment qu'ils occupaient. C'est le président de l'université qui a demandé l'intervention des forces de l'ordre. 7 personnes ont été placées en garde à vue. Et dans la soirée, des étudiants sont ensuite allés manifester jusqu'au commissariat de la ville pour demander la remise en liberté de leurs camarades. Reportage Thomas Larabie.
Mégaphone et banderole à la main, une cinquantaine d'étudiants demandent la libération de leurs camarades. Pour Hugo, la violence ne venait pas des étudiants, mais des forces de police.
On a commencé à avoir peur quand ils sont arrivés avec leurs boucliers, etc. Du coup, on s'est tous mis en chaîne au fond de la salle, assis. Et là, ils ont chopé des gens par le bras, par les vêtements, par le cou, ils les ont traînés dans la salle, ils ont mis des coups de bouclier sur les mains. J'ai vu un mec gazer quelqu'un à bout portant en rigolant, donc le mec avait l'air de trouver ça bien drôle, c'était plutôt pas mal.
Selon Émile, étudiant en deuxième année d'anthropologie, ces arrestations ne sont pas liées à des violences ou des dégradations, elles ont même été préparées.
C'est pas une surprise, c'est juste parce que c'est justement les leaders en quelque sorte de la mobilisation Nanterre, c'est eux qui sont tous les jours le matin à 8h à tracter, qui font le tour des amphis pour parler, ben c'est couper la tête du mouvement en fait. C'est faire en sorte que ça ne mobilise plus. J'espère que ça ne va pas être le cas et qu'au contraire, il va y avoir une réaction énorme de la part des étudiants. Quoi.
En plus de leurs revendications politiques, les étudiants demandent désormais la démission du président de leur université, coupable selon eux d'avoir fait appel au CRS et indiqué les meneurs. Un blocage est prévu dès ce matin à partir de 9h.
Et pas question d'annuler les examens à Nanterre ou ailleurs, martèle le gouvernement, mais pour la première fois, il reconnaît qu'on pourrait en décaler certaines épreuves si nécessaire. Ce n'était pas vraiment la foule des grands jours cette nuit à l'Assemblée où venait pourtant de débuter l'examen du projet de loi sur l'avenir de la SNCF. 94 députés, soit 1 sur 6, ont pris part au vote sur le changement de statut de l'entreprise. La mesure a été adoptée sans surprise. Dans les gares, ces jours de sortie de grève, le trafic reprend progressivement, comptez 60% des trains intercités, 80% des liaisons TER et des transiliens et un trafic normal pour les TGV. Le mouvement reprendra jeudi soir et si les cheminots pensent aller jusqu'au bout de leur grève, c'est aussi grâce aux multiples caisses de grève qu'ils ont lancées. La plus importante a permis de recueillir 600 000 euros pour tenir dans la durée, Hélène Fili.
De mémoire syndicale, les sommes atteintes sont rarissimes, voire inédites. Elles témoignent d'un soutien, d'un attachement au service public pour les cheminots. Alors l'argent n'ira pas dans n'importe quelle poche, affirme Éric Meyer de Sudra.
On va privilégier les grosses retenues sur les petits salaires. On va avoir, dès ce mois-ci, des grévistes qui vont se retrouver amputés de plus d'un tiers de leur rémunération, donc sur des salaires qui vont de 1200 à 1500 euros, ça peut vite mettre les gens en très grande difficulté.
Sudrail a sa propre caisse de solidarité, 40 000 euros déjà récoltés qui seront distribués dans la vingtaine de structures régionales. La CGT, elle aussi, a son système, une caisse commune pour les cheminots, mais aussi pour les salariés des autres secteurs mobilisés, comme les éboueurs. Quant à savoir comment sera partagée la cagnotte litchi entre les syndicats, sera-t-elle partagée à la représentativité syndicale, ce qui favoriserait d'abord la CGT et l'UNSA? La question n'est pas encore tranchée.
La grève qui s'interrompt donc à la SNCF, mais qui reprend à Air France pour deux jours. Sur la question cette fois des salaires, la compagnie prévoit d'assurer les trois quarts de ses vols et elle chiffre à 170 millions d'euros le coût de cette grève.
Voilà pour le climat social, Marc, mais Emmanuel Macron vient peut-être d'ouvrir un nouveau front sur une autre question.
Celle toujours sensible de la laïcité. Il était hier soir devant les évêques de France et il a estimé qu'il importait, je cite, de réparer le lien abîmé entre l'Église et l'État, dans ce qui était peut-être une référence à la manif pour tous. Les réactions en tout cas ont été immédiates. Benoît Hamon dénonce un affront à la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État. Même tonalité chez Manuel Valls, mais ce sont les insoumis qui tapent le plus fort, à l'image du député Alexis Corbière qui n'a pas apprécié qu'Emmanuel Macron demande aux catholiques de s'engager politiquement.
Pour quelle raison considérer que parce que tel ou tel de nos concitoyens, en fonction de sa religion, devrait s'impliquer? C'est un propos qui, en quelque sorte, ne considère plus le citoyen dans sa réalité et dans son égalité vis-à-vis de tout le monde, mais considère que c'est en fonction de sa religion qu'il devrait s'impliquer. On parle trop de religion aujourd'hui. La religion, bien entendu, doit être respectée, la liberté de culte, mais cette manière aujourd'hui d'exacerber le fait religieux, de vouloir exalter les convictions spirituelles de chacun, de vouloir considérer que c'est en fonction de sa religion que tel ou tel de nos concitoyens s'engage, est une manière très très maladroite et assez dangereuse, je le répète. Donc il faut défendre toute la laïcité, rien que la laïcité. La loi 1905, elle est claire, elle garantit la liberté de culte, elle garantit surtout la liberté de conscience et elle considère que la République est une chose, la République laïque, chaque citoyen est égaux et que la religion est une affaire privée.
Alexis Corbière, joint au téléphone par Philippe Lefébure. Le tueur de Magnanville a-t-il bénéficié d'indiscrétions venues de la police? Il y a deux ans, un islamiste radical, Larossi Abala, avait tué un couple de policiers à son domicile des Yvelines. Depuis hier, six personnes sont en garde à vue dans cette affaire. Parmi eux, une policière, ainsi que sa fille et son fils, tous deux radicalisés. Les enquêteurs veulent savoir dans quelle mesure ils auraient pu aider le terroriste à trouver la cible, ainsi que l'adresse des victimes. Le retour des gendarmes mobiles et des huissiers, ce matin à Notre-Dame-des-Landes. Les opérations qui s'étaient interrompues cette nuit ont repris il y a une heure et demie pour évacuer les occupants illégaux de la ZAD. Notre envoyée spéciale Béatrice Duguay nous fait part de tirs de flashball ce matin et comme hier, de nombreuses grenades lacrymogènes. Pas d'arrestation pour l'instant, mais les forces de l'ordre avancent à l'intérieur de la ZAD.
8h13, qui veut diriger Radio France? C'est jour de grand oral pour les candidats.
Ils sont six à vouloir succéder à Mathieu Gallaire, évoqué par le CSA. Six candidats qui vont justement défiler à partir d'aujourd'hui devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Évidemment, chacun vient avec son projet sous le bras, mais il y a tout de même des points communs pour tous les candidats qui dessinent donc ce que sera sans doute la radio de demain. Alexandra Hakoun.
L'avenir de la radio publique, c'est le numérique. Il faut penser digital, médias global, nouveaux modes de consommation, anticiper les révolutions que seront bientôt les assistants vocaux, les voitures connectées. Ça, on le retrouve dans tous les projets de façon plus ou moins marquée. Tout comme la nécessité de faire plus à destination de la jeunesse afin de rajeunir les audiences, de mettre en place des synergies avec le reste de l'audiovisuel public, de revoir l'organisation interne. Autre préoccupation commune, la proximité, une idée à vivifier pour les uns, une priorité pour les autres, avec au cœur bien sûr le réseau France Bleu. Mais on trouve aussi des idées surprenantes comme celle de produire des contenus pour des marques. Deux candidats y voient un levier de diversification intéressant. Un autre verrait bien la création d'une école Radio France ouverte à tous, où les formateurs seraient issus des équipes de la Maison de la Radio. Des déclarations d'intention somme toute assez généralistes, qui seront sans doute développées, voire amendées dans la deuxième partie des auditions qui, elle, aura lieu dans le secret du huis clos.
Et la fumée blanche au CSA est attendue d'ici la fin de la semaine. Toujours au chapitre des médias, l'aventure se termine pour Têtu, le magazine gay lancé en 1995 par des militants contre le sida avec le soutien de Pierre Berger. Il était mal en point depuis plusieurs années. Il a été définitivement placé en liquidation judiciaire. Hier, aucun repreneur ne s'est fait connaître.
Et à 8h14, Marc, on termine avec un coup de cœur musical.
On les croirait tout droit venus des États-Unis, mais c'est en banlieue parisienne qu'ils ont grandi. Le groupe s'appelle Theo Lawrence and the Hurts. Il vient de sortir son premier album de musique soul. Montez un peu le son, Mathieu Culeron est tombé sous le charme. You know, baby, that I
Véritable sorcellerie ou talent inné, cette voix est bien celle d'un petit Parisien d'origine canadienne. Theo Lawrence and the Arts sort son premier album après être retourné aux sources de la musique américaine, de Bo Diddley à Al Green, lui qui a commencé le piano classique à 7 ans.
Ça fait depuis que j'ai 13 ans que je veux sortir mon premier album. Je me souviens d'ailleurs que Homemade Lemonade, le titre de l'album, j'avais déjà l'idée du truc quand j'avais 15 ans. Donc, depuis que je suis en 6ème, j'ai toujours eu un groupe dans ma vie et ça a toujours été le truc le plus important.
Homemade Lemonade est un album à la production léchée, vintage, une soul repensée par des musiciens nés à la toute fin du 20e siècle.
Tous on vient d'un truc assez rock quoi. Le MC5, les Stooges, il y a la soul évidemment, il y a un morceau qui se rapproche un petit peu du côté country de l'époque un peu des Byrds ou de Elvis in Memphis, ce genre d'influence. On a essayé de jouer un peu comme des, je sais pas, des samples de hip-hop parfois, et un morceau plus expérimental à la fin qui s'appelle Shanghai Lady.
Toute la délicatesse du groove des jeunes musiciens de Theo Lawrence and the Arts pour leur premier album et une marge de progression qui donne le tournis.
Voix taper du pied sous la table, Nicolas Demorand. Sachez qu'ils seront demain en concert à Paris. Bernard Guetta aussi est dans le rythme. Et dans deux semaines sur la scène du Printemps de Bourges.
Merci Marc Fauvel.